Silence. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.r2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Oh, tu m'as l'air dans une forme extraordinaire.
Comme d'habitude, oui, il faut.
Mais chérie, oh là là, on est tous en forme. J'espère que vous êtes aussi en forme, hein, parce qu'on voudrait bien que tout aille bien pour vous, évidemment. Merci de nous recevoir chez vous, en tout cas. Ben oui, on va commencer. Oh, ben écoute, j'ai envie de parler d'un centenaire aujourd'hui.
Et oui, qui nous a quittés il y a quelques jours.
Ah ben, il nous a quittés le 9. Non, pardon. Non, il nous a quittés le 5. Qu'est-ce que je raconte, moi ?
Le 5 février, il nous a quittés.
Kirk Douglas, le grand Kirk Douglas.
Le
père de Michael Douglas, absolument. Qu'il avait eu avec sa première épouse, d'ailleurs. On va dire deux, trois mots, là. Il avait 103 ans, cet homme-là. Moi, je l'avais vu en interview, mais il en a très peu fait, qui était passé sur je sais plus quelle chaîne à la télévision. Eh ben, ah oui, c'était au moment de la remise de son Oscar d'honneur, de son prix d'honneur, là. Il a eu un prix pour toute sa carrière, mais il était assez extraordinaire encore à 103 ans. Bon sang. Ah oui, oui, oui. Ben, c'était l'année dernière, donc 102 ans il avait, quand je l'ai vu, là. 102 ans. Et ça me rappelle une autre centenaire qu'on a fêté il y a pas si longtemps, en 2017. C'était Daniel Darieux qui, elle aussi, était centenaire. Ouh, on a des centenaires, ça c'est chouette quand même. Et des centenaires, attention, qui sont en pleine forme, qui se tiennent vachement bien, qui parlent, qui sont normalement et qui sont... c'est magique, là, c'est magique. Hein. Daniel Darieux, pareil, elle était en pleine forme, interviewée quelques jours avant, en pleine forme. Hein. Donc voilà, on est la radio des centenaires. Mes chéris, on porte bonheur, donc si vous voulez vivre centenaire, il faut continuer à écouter Radio Entre-deux-Mers. Et voilà, je plaisante, mais c'est peut-être vrai après tout. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Donc Kirk Douglas, eh bien oui, alors on disait de lui, c'est pas moi qui l'ai écrit, dommage, j'aurais bien voulu, mais un regard perçant, une énergie d'athlète, un manteau à fossettes souvent qualifié de pugnace. Et oui, Kirk Douglas, on disait aussi de lui que c'était l'indompté d'Hollywood. C'était quand même, en fait, dans sa vie privée, il a été très sage, cet homme-là. Vraiment. Alors qu'il avait quand même un charme et un succès extraordinaire, il aurait pu papillonner de ci, de là. Eh bien non, il a eu deux épouses. Uniquement deux épouses. Alors, la première, c'était Dana Douglas, Douglas, ils ont été mariés de 1943 à 1951. Et c'est elle qui a donné naissance à, justement, Michael Douglas, dont Damien nous parlait tout à l'heure. Et ben, c'est sa maman, Diana ou Diana Douglas. Et la deuxième épouse, Anne Buydens, ça a duré, écoutez, on fait les comptes, 67 ans de mariage. Il a épousé en 1954, jusqu'à sa mort, en fait, c'est-à-dire là, jusqu'en 2020. Elle est toujours vivante et alors elle est centenaire. Eh oui, elle est centenaire. Elle est née en 1919, en avril, et elle est toujours là, centenaire. C'est quand même une famille extraordinaire. Parce que déjà, Michael Douglas, il est pas jeune non plus. Je crois qu'il a déjà quand même 83 ou 85 ans. Ouh, ce sont des familles qui durent, hein, qui sont très performantes jusqu'au bout. Parce que Michael Douglas, lui, fait encore du cinéma, hein, il tourne encore. Et donc, voilà. Alors, Anne Buddens, la maman de Michael Douglas et l'épouse de Kirk Douglas, c'était une productrice belge et belgeo-américaine quand elle s'est mariée. Elle est devenue américaine en même temps. Et il l'a rencontrée au Festival de Cannes en 1953. Elle était là, elle, pour la promo d'un film qui s'intitulait Un acte d'amour, dans lequel Kirk Douglas, évidemment, avait le rôle principal avec Dani Robin, notre actrice française, dans le film. Et donc, c'était réalisé par Anatole Litvak, un grand réalisateur, qui avait donc envoyé Anne pour faire la promo de ce film. Et Kirk Douglas a dit, en parlant de cette rencontre, qu'il avait été fasciné. Dès qu'il l'a vue, il a été fasciné, mais complètement. Mais il dit d'une façon extraordinaire. Il a voulu l'inviter à déjeuner et elle a refusé, mais très gentiment. Il a dit d'ailleurs, c'est le refus le plus gentil que j'ai jamais reçu. Et puis bon, bah, il faut croire que l'année d'après, eh ben, comme ils sont mariés en 1954, c'était donc un an après, eh bien, Anne s'est dit qu'après tout, ça pouvait être l'homme de sa vie. Et c'était vraiment l'homme de sa vie. Là, donc sinon, ben, il a quand même 60, un peu plus de 70 films au compteur quand même, hein, cet homme-là. Il était, en fait, on dit de lui qu'il était à la fois le dernier géant de l'âge d'or hollywoodien et en même temps quelqu'un de, comment dire, une autorité morale de l'industrie du cinéma. Il était les deux. Il avait un engagement absolument, il a eu un engagement sans faille pour la liberté d'expression et un progressisme politique dont il a encore fait preuve en s'engageant contre Donald Trump et l'incarnation du rêve américain. Vous voyez que même centenaire, il avait du punch encore, hein. Et donc, c'était, en fait, c'est Kirk Douglas, c'était le fils d'un chiffonnier et d'une mère au foyer, illettré, qui avait fui la Russie tsariste pour échapper à l'antisémitisme. Donc, il démarrait de très loin, finalement, en arrivant comme ça aux États-Unis. Il s'appelait d'ailleurs, au départ, il s'appelait Issur Danielovitch, c'était son nom de naissance. Il a grandi dans la misère, et oui, avant de devenir le grand acteur qu'on connaît.
Il a fait du théâtre également.
Et puis après, à partir de 29 ans, il n'a fait que.
Il a fait du théâtre également.
Et puis après, à partir de 29 ans, il n'a fait que. Un divan à Tunis. Et c'est Manelé Labidi, la réalisatrice scénariste franco-tunisienne, qui l'a réalisé, qui est très, très connue chez elle. Elle est très appréciée là-bas. Mais chez nous aussi, elle va l'être, parce que son film est quand même aussi savoureux. C'est très drôle en même temps. Ça a été présenté dans tous les festivals, hein, la Mostra de Venise, à Londres, à Saint-Jean-de-Luz, à Toronto, au Festival international du film indépendant de Bordeaux. Et oui, ça, c'est pas loin de chez nous. Voilà, donc son film a plu énormément. C'est sûr, hein, y a rien à dire là-dessus. Alors, c'est quoi un divan à Tunis ? Eh ben, après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyste dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays. Schizophrène, hein. Le pays est schizophrène, hein. J'aurais pas dû m'arrêter après le pays. Dans ce pays, schizophrène, entre guillemets. Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec prestations tarifées, les débuts du cabinet sont mouvementés. Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour continuer d'exercer. Ben oui, il lui manque l'autorisation de libre pratique. Carrément, quoi. Et quand elle se rend compte qu'elle est bien lancée, aïe, 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 faudrait aller voir le film pour avoir la suite, mes chéries. Alors, on a des actrices, deux actrices aussi, alors, exceptionnelles dans ce film. On a Golshifteh Farahani. Elle est iranienne et française, hein, Golshifteh Farahani. On la connaît, nous. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, on la connaît absolument. Elle joue le rôle de Selma. Et on a un acteur tunisien aussi qui est très très connu chez lui, Mahdi Mastoura. Dans les rôles principaux, on a ces deux-là. Bon, c'est un joli casting en fait, mais c'est un beau film également. Ça dure 1h28. Un divan à Tunis. Drame ou comédie, eh oui. Ensuite, j'ai un drame judiciaire français. Ça s'appelle « La fille au bracelet ». Alors moi, au début, je me suis dit « La fille au bracelet ». Oh, on va parler de bijoux. Oh, mais que nenni, on ne va pas parler de bijoux, mes chéris. Et non, vous savez ce que c'est, le bracelet pour la justice, hein ? Ça doit vous... Hein ? Petite idée, quand même, de ça, non ? C'est l'histoire de Lise, qui a 18 ans et qui vit dans un quartier résidentiel sans histoire et qui vient d'avoir son bac. Mais depuis 2 ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. Et oui, c'était pas du tout une histoire de bijoux, évidemment. C'est un film de Stéphane Demoustier. C'est pareil, on la connaît, la famille Demoustier. Hein. Il y a dans le film sa sœur qui joue Anaïs Demoustier, qu'on connaît, une très très grande comédienne qui joue l'avocate générale. Rôle très difficile, ça. Alors, Stéphane Demoustier, c'est un réalisateur, c'est un scénariste, producteur français de 43 ans. Il a déjà eu un prix, 13 nominations. Il a eu un César aussi pour un court-métrage. Et il est le frère de cette fameuse comédienne dont je parlais, Anaïs. Alors, le film a 2 nominations au Festival du film francophone d'Angoulême 2019. C'est quand même le Valois du scénario et le Valois de la musique du film, qui sont 2 prix très, très jolis. Alors, dans les rôles, à part Anaïs Demoustier, on a Rochdy Zem, évidemment. Lui, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? Il est formidable, donc il n'y a rien à dire. Il est comme d'habitude, égal à lui-même, dans ce film. On a Mélissa Gers aussi, qui joue le rôle de Lise et qui fait ses premiers pas au cinéma. Eh oui, Lise. On a Chiara Mastroianni, pareil. Est-ce qu'il est vraiment obligatoire de la présenter ? Bon, ça me fait suer un peu de dire ça, parce que je sais que ça la fatigue un peu d'entendre toujours dire qu'elle est la fille de Catherine Deneuve et que son père... Qui est son père, Damien ? Chiara Mastroianni ?
Marcello Mastroianni.
Oui, ben voilà, donc elle est un peu fatiguée d'entendre toujours dire ça, mais bon, là c'est pour nos chéris, là, c'est pour la situer quand même. Tant pis, elle a 2 parents extraordinaires et elle-même est assez extraordinaire également dans son métier de comédienne. Et on a Annie Mercier aussi, qui joue l'avocate de Lise. On la connaît, Annie Mercier. En fait, on connaît peut-être pas trop son nom, mais quand on la voit, on la reconnaît. On l'a déjà vue et elle a un rôle pas facile non plus, l'avocate de Lise, hein. Face à Anaïs Demoustier, avocate générale. Ça dure 1h36. Mais c'est vraiment... je voulais absolument en parler parce que je trouve qu'il est formidablement bien fait. C'est pas évident, c'est un thème quand même assez délicat. Hein. À travers l'autopsie clinique d'un procès, le réalisateur a voulu aborder les mœurs de la jeunesse d'aujourd'hui sans la juger. Or, dans une affaire judiciaire, tout est exacerbé et le procès agit donc comme un miroir grossissant des rapports intergénérationnels. Le cinéaste ajoute « L'héroïne représente l'altérité absolue pour moi puisque c'est une femme et une adolescente. C'est pourquoi j'ai construit le scénario autour du mystère que représente à mes yeux cette jeune femme. C'est bien sûr ce qui m'intéressait. À travers ce portrait en creux, je voulais parler de la famille. J'ai 3 enfants. Nous dit-il, beaucoup plus jeune que mon héroïne, mais j'ai remarqué que très vite la question de l'altérité se posait. À qui a-t-on affaire ? On a toujours l'impression de connaître ses enfants, mais l'évidence apparaît inéluctablement. Ce sont des êtres autonomes qui nous échappent de plus en plus. Chers auditeurs, parents, pensez bien à ça. Est-ce qu'on les connaît vraiment bien, nos enfants, lorsqu'après ils grandissent et nous échappent ? Ils deviennent d'autres individus, en fait. Et oui ! Et il y a peut-être après des choses qui nous échappent. Nous qui avons tous des enfants, là, eh bien, on peut se poser la question quand même. En fait, La fille au bracelet s'est inspirée de l'histoire d'Acusada. C'est un film argentin qui est sorti en France en juillet 2019. Et c'est par le biais du producteur Jean Desforêts que le réalisateur Stéphane Demoustier a découvert le scénario et a décidé de traiter cette intrigue sous un nouvel angle, en s'intéressant, non pas à l'accusé, mais aux personnes qui l'entourent. Et oui, c'est pour ça qu'il est bien fait, ce film. Il est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, où c'est surtout l'accusé qui est la vedette. Et là, il va s'interroger et sur les personnes qui entourent Lise, l'accusé. Et c'est pas trop triste, hein, justement. Et alors là, en fait, la seule qui depuis le début supportait les silences, c'était Mélissa Guerre, justement, hein, qui fait ses premiers pas au cinéma. Et elle avait une intensité, nous dit-il, qui détonnait. Sa personnalité allait enrichir le personnage. Cette impression ne s'est jamais démentie. Donc on a une actrice là qui fait ses premiers pas et qui a tout à fait endossé le personnage complètement, ce qui en fait un bon film, bien sûr, parce que ça c'est important quand même. Hein. Et pour construire son récit, donc, Stéphane de Moustier a passé beaucoup de temps en cour d'assises pour assister à des procès. C'était d'ailleurs au tribunal de Bobigny. Il est allé et il était certain comme ça de coller au maximum à la réalité. Je ne voulais pas tomber, dit-il, dans une vérité documentaire, mais il m'importait, au contraire, que ce soit crédible. Le scénario fini, je l'ai d'ailleurs fait relire par des juges et des avocats. Ah oui, quand même, il a fait relire son scénario à des gens de justice. Oui, il a soigné son travail, hein, Stéphane de Moustier, comme d'habitude d'ailleurs. Et en fait, quand il a confié le rôle du procureur, donc de l'avocat général, à sa sœur, il était parti sur un acteur au départ d'une soixantaine d'années qui en imposerait avec son autorité, son expérience. Mais quand il est allé assister à plusieurs procès, justement, il s'est aperçu que le procureur était très souvent une femme de 30 ans. Et oui, c'est comme ça qu'il a décidé donc de choisir sa sœur, qui est une excellente comédienne et qui ne pouvait qu'apporter un plus à son film, hein, parce qu'elle est vraiment, elle est formidable quand même, cette actrice. Alors le président du tribunal, ça c'est quand même quelque chose d'assez curieux, est joué par un vrai avocat. Et oui, c'est le conseiller juridique travaillant sur le film qui a proposé cette idée au réalisateur. C'est quand même une idée incroyable, ça. Eh oui, c'est une rencontre qui m'a réjouie, nous dit le réalisateur, car c'est un homme qui est intelligent, sensible et généreux. Et oui, voilà. En fait, le fait de tourner dans un vrai tribunal, parce qu'ils ont tourné dans un vrai tribunal, agissait nécessairement sur l'expérience du tournage, en particulier pour les acteurs. Et oui, le principe de réalité n'est plus le même. Les figurants dans le tribunal n'avaient pas lu le scénario et ils découvraient donc le procès au fur et à mesure. Ça, c'est incroyable aussi. C'est extraordinaire, ça, pour la vérité, pour la réalité. L'audience était partagée sur la culpabilité de Lise. Certains changeaient d'avis en cours de route. C'était drôle. C'était bon signe également, car je voulais que cette incertitude demeure à l'écran. C'est un film sur l'interprétation des faits, sur le doute. Chouette film. Écoutez, mes chéris, si vous aimez tout ce qui est juridique, tout ce qui tourne autour d'un procès, et avec tous les personnages qui sont là, qui sont autour de l'accusé, allez voir ce film, vous ne serez pas déçus. Il dure 1h36, La fille au bracelet. Ça vaut la peine. Et ensuite, j'ai un thriller, un drame américain, ça s'appelle Queen et Slim. C'est de Melina Matsoukas, qui est une réalisatrice, productrice américaine de 39 ans. Elle s'est bien débrouillée, je trouve, moi. Ça se passe en Ohio, à la suite d'un rendez-vous amoureux. Deux jeunes Afro-Américains qui se rencontrent pour la première fois sont arrêtés pour une infraction mineure au code de la route. La situation dégénère de manière aussi soudaine que tragique. Quand le jeune homme, et puis c'est une banalité, quoi, c'est un truc tragique, banal, quoi, en fait, hein. Quand le jeune homme abat en position de légitime défense le policier blanc qui les a arrêtés. Sur la route, ces deux fugitifs, malgré eux, vont apprendre à se découvrir l'un l'autre dans des circonstances si extrêmes et désespérées que va naître un amour sincère et puissant, révélant le cœur de l'humanité qu'ils partagent et qui va changer le reste de leur vie. Queen, c'est Jodie Turner-Smith. C'est une jeune femme assez remarquable, je trouve, comme actrice. On a Daniel Kaluuya, qui joue le rôle de Slim. On a Chloé Sevigny, Brooklyn Woodbine, dans les rôles principaux. Et la scénariste, qui est très connue et qui est très employée pour ce genre de film, c'est Lena White, qui est vraiment une très, très grande scénariste. C'est important aussi, hein, de choisir un très bon scénariste. Voilà, ça dure 2h12. C'est vraiment, c'est un très très beau film. C'est avec, il y a une injustice là-dedans qui fait froid dans le dos. C'est quelque chose de... Et oui, c'est vrai que c'est une histoire assez banale, qui tourne au tragique, mais d'une façon banale, effectivement. Ça peut aller si vite, très très vite même. Et tout d'un coup, on était quelqu'un comme ça, banal, hein, lambda, et tout d'un coup, on se retrouve poursuivi pour avoir tué quelqu'un qui voulait vous tuer. Et en plus, c'est un policier. Eh oui, c'est encore plus grave. C'est pour ça que ce film est bien fait. Alors pour voir, pour savoir comment ça se termine, ben mes chéris, il faut aller le voir. Moi, je ne vais pas vous le dire. Et non. Et ensuite, ben je voulais parler d'un drame soudanais. C'est français, c'est égyptien, c'est allemand, c'est norvégien. Ça s'appelle « Tu mourras à 20 ans ». C'est de Amjad Abou Alala, qui est un réalisateur, scénariste, coproducteur soudanais. Ça se passe au Soudan, justement, dans la province d'Al-Jazira. On connaît Al-Jazira, on a souvent entendu parler quand on parlait du Soudan, d'ailleurs. Où il s'est passé pas mal de choses. Enfin, ça se passe de nos jours, hein, dans la province d'Al-Jazira. Peu après la naissance de Mouzamil, le chef religieux du village prédit qu'il mourra à 20 ans. Le père de l'enfant ne peut pas supporter le poids de cette malédiction et il s'enfuit. Sakina élève alors seul son fils, le couvant de toutes ses attentions. Un jour, Mouzamil a 19 ans. Et là, on va mettre des points de suspension. C'est joué par Mustapha Cheata, Islam Moubarak. C'est Sakina, elle, Islam Moubarak, la maman. Deux acteurs assez prodigieux aussi. Hein. Ah ouais. Alors, c'est adapté en fait d'une nouvelle de l'écrivain et activiste soudanais très connu là-bas, Amour Ziada, qui vit en Égypte depuis qu'il a été banni du Soudan. Et oui, le film montre comment une croyance peut affecter la vie des gens et la façon dont cette foi peut être instrumentalisée. Une forte croyance d'ailleurs, comment c'est pas qu'une croyance simple, c'est une forte croyance. Quand quelqu'un, alors politiquement aussi d'ailleurs, hein, parce que quand quelqu'un dit « c'est la parole de Dieu », plus personne ne peut parler. « Mon film est une invitation, dit-elle, à être libre. Rien ni personne ne peut vous dire. Voici votre destin, écrit quelque part. C'est à vous de décider de ce que sera votre vie. » Le tournage s'est déroulé dans le village du père du réalisateur. Enfin, du réalisateur. Pourquoi je disais elle, moi ? Non, c'est lui. Tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, le village qui n'a pas changé, son village d'enfance. Les personnages du film parlent arabe avec un accent soudanais. C'est triste, dit-il, qu'un pays n'ait pas de cinéma national. Mais c'est aussi une opportunité qui signifie qu'il y a beaucoup d'histoires qui n'ont pas été racontées. Il n'y a pas de cinéma national au Soudan. Il n'y a que de l'indépendant, que du cinéma indépendant. C'est comme ça. Et ça rappelle quand même, ça m'a rappelé moi une phrase d'Eleanor Roosevelt qui disait que personne ne peut vous diminuer ou vous dicter votre conduite sans que vous y consentiez. Ça me rappelle tout à fait ça. J'ai trouvé que c'était très beau. J'aime beaucoup, moi, Eleanor Roosevelt. C'est une femme qui a écrit des très jolies choses et elle avait dit ça en particulier. Donc, mes chéris, ne pas oublier que personne ne peut vous dicter votre conduite sans que vous y consentiez. Et vous êtes libre de devenir ce que vous voulez devenir, sans passer ni par la religion, ni par la politique. Voilà ce que veut dire ce film. Tu mourras à 20 ans. Ça dure 1h45. Je trouvais que c'était quand même très intéressant. Et puis, je voulais en parler de ça quand même. J'avais aussi un film, Mickey and the Bear. Alors, the bear, c'est quoi ? C'est un...
Nounours.
Voilà, c'est un ours. Mickey and the Bear, c'est un drame américain. C'est pas du tout un film d'animation. Hein. J'avais espéré, moi, quand j'ai vu le titre la première fois, je me suis dit, chouette, sur la tête de l'animation. Pas du tout. C'est un drame réalisé par Annabelle Attanasio, qui est une actrice, réalisatrice, scénariste de 26 ans. Le film a eu 7 nominations, dont 6 au Festival du cinéma américain de Deauville 2019 et une aussi, une nomination à l'Acide de Cannes en 2019. Voilà, c'est l'Acide, je vous rappelle, que c'est l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Donc, il s'agit d'une réalisatrice qui a réalisé un film indépendant. Elle est, voilà, elle en fait partie. Alors, c'est quoi ? C'est l'histoire de Mickey Peck. C'est un adolescent du Montana. Il a la lourde responsabilité de s'occuper de son père, un vétéran accro aux opiacés. En clair, qu'il se drogue. On est clair. Quand l'opportunité se présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face à un choix impossible. Alors, Mickey, c'est Camilla Morone Camilla. C'est James Badgedale qui fait le père. Il est sensationnel, franchement, l'acteur. Enfin, ils sont tous. Mais alors, James Badgedale, qui est connu, il est connu quand même aux États-Unis, lui. Mais on le reconnaît aussi, on l'a déjà vu. Bon, voilà. Mais là, dans le rôle du père drogué, il est quand même... On a Ben Roselfield aussi dans les rôles principaux. Alors, la réalisatrice, en fait, elle s'est beaucoup identifiée au personnage de Mickey et à sa manière de rester stoïque face à des situations chaotiques. Dans tout ce que j'écris, nous dit-elle, j'ai besoin d'avoir de l'empathie pour mes personnages et de m'identifier à eux d'une manière ou d'une autre. Même s'il s'agit d'un être profondément violent et destructeur, je dois pouvoir trouver sa part d'humanité. Voilà, une part d'humanité, voilà, dans les personnages. Le film est avant tout le récit d'apprentissage d'une jeune fille dans une ville principalement masculine. Ça ne simplifie rien du tout, effectivement, pour cette jeune fille. Le fait que le monde masculin soit plus important que le monde féminin, là, justement, dans cette partie du Montana. Ça dure 1h29. C'est chouette, chouette comme film. Et puis, j'avais quand même un documentaire dont je voulais quand même parler. C'est Plogoff, virgule, des pierres contre des fusils. Alors, c'est un documentaire de Nicole Le Garec, qui est une réalisatrice française. Elle est script également, d'ailleurs, actrice également. Le documentaire a été sélectionné à Cannes en 2019. Plogoff, ça se passait en février 1980. À Plogoff, toute une population refuse l'installation d'une centrale nucléaire à deux pas de la pointe du Raz en Bretagne. 6 semaines de lutte quotidienne menée par les femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans de cette terre finistérienne désireux de conserver leur âme. 6 semaines de drame et de joie, de violence et de tendresse, le témoignage d'une lutte devenue historique. Très très beau documentaire. Ça dure 1h52. Si ce thème vous inspire, mes chéris, si vraiment ça vous intéresse, essayez de choper ce documentaire. De toute façon, il sortira très rapidement en DVD. Mais Plogoff, des pierres contre des fusils, c'est très, très beau. Et pour finir, c'est pour les petits chéris qui aiment les films d'épouvante. J'en ai un très bon. Horreur, épouvante, fantastique, c'est américain. Ça s'appelle Nightmare Island. Nightmare Island, voilà.
C'est cauchemar.
Ah oui.
Cauchemar en Islande.
Ah oui, oui. Et le réalisateur est un as du genre. C'est Jeff Wadlow, qui est un acteur-réalisateur scénariste américain. Il a déjà eu des nominations. Il a 43 ans. C'est vraiment... Il est doué. Il est doué pour ce genre de film. Il y a un avertissement, évidemment. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Bon, ça, on le sait bien pour ce genre de film. L'énigmatique Monsieur Roarke donne vie au rêve de ses chanceux invités dans un complexe hôtelier luxurieux et isolé. Évidemment, il est isolé. Parce qu'il arrête au milieu d'une ville, ce n'était pas possible. Cet hôtel est isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous se transforment en véritable cauchemar, les invités n'ont d'autre choix que de résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants. Mais alors, ils commencent, on a l'impression, on est très détendu au début. Et ça va aller crescendo. comme dans les meilleurs films d'ailleurs d'épouvante, d'horreur, ça va crescendo. Au début, on a l'impression d'entrer dans un film normal, tout à fait, les gens sont sympas, tout le monde va bien, ils sont propres sur eux. Et tout d'un coup, ça dégénère au fur et à mesure. Alors, on a Maggie Q, c'est son nom, hein, c'est un Q, effectivement. C'est pas du tout une grossièreté, hein, mes chéris, c'est Maggie Q, c'est son nom. Elle est spécialiste d'ailleurs de ce genre de film, très jolie. Tout à fait, voilà. On a Lucy Hall, on a Michael Pena, aussi spécialiste aussi, lui, des films d'horreur. On a Austin Stowell. Alors, c'est vraiment, pour les amateurs de frissons, il n'y a pas de doute, hein. Parce que quand ça monte crescendo, après, ça va devenir, évidemment, la dernière demi-heure est quand même assez terrifiante. C'était voulu. Mais c'est du cinéma, hein. Faut pas non plus. Voilà, c'est pas pour de vrai, comme disent les enfants, c'est pour de faux. Ça dure 1h50, mais pour les amateurs, il est vraiment très, très bien fait. Et je sais qu'il y en a, parce que ces films-là attirent beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectateurs. Et voilà!
Très bien. Eh bien, super. Merci beaucoup, Anne, pour toutes ces sorties cinématographiques.
Ma foi, il n'y en avait pas énormément, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment, qui valent la peine. Presque tous, d'ailleurs. C'est pour ça que j'en ai un peu moins que d'habitude, mais ce sont vraiment de très, très bons films. Mes chéris, à vous de choisir. Écoutez, de toute façon, on va se quitter, là, hein. Damien va vous dire au revoir, moi aussi. En attendant, n'oubliez pas d'aller dans le cinéma proximité. Chaque fois, vous le pouvez. Comme vous pouvez et comme vous voulez surtout. Hein, comme on a dit tout à l'heure, on choisit sa vie, on choisit ce qu'on fait. C'est sa liberté quand même. Donc on va pas vous en vouloir si vous quittez les cinémas à proximité pour aller ailleurs, évidemment, quand même. Et puis, alors Damien, tu dis au revoir peut-être toi avant moi.
Oui, bonne semaine à vous les
amis. Oh bah oui, bonne semaine. Et puis surtout, alors faites attention, hein, le temps est bizarre. Un coup froid, un coup chaud, un coup pluie, un coup pas. Ouais, bon, c'est très curieux. Un hiver un peu perturbant, enfin, météorologiquement, évidemment. En tout cas, n'oubliez surtout pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.